Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le lieutenant Adrien Parmentier ainsi que le caporal-chef Jérémy. Ils vont évoquer pour nous les journées portes ouvertes de la sécurité civile à Nogent-le-Rotrou. Lieutenant Adrien Parmentier, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Caporal-chef Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, j'aimerais bien mieux vous connaître, lieutenant Adrien Parmentier. Vous êtes venu à la sécurité civile depuis longtemps ? Vous êtes lieutenant depuis un grand moment ?
Je suis tout jeune dans le milieu de la sécurité civile. Ça fait quelques mois à peine que je suis entré dans l'institution.
Oui. Et comment ce choix ? Pourquoi ?
Pourquoi ce choix ? Je voulais entrer dans l'armée, mais je ne souhaitais pas forcément porter une arme.
Oui.
Et c'est ce qui m'a conquis, séduit dans la sécurité civile.
C'est-à-dire que ce qui vous plaît, c'est d'aller au secours des gens qui souffrent.
Exactement, exactement. C'est un monde entre le militaire et le secours qui m'a plu.
Oui, parce que c'est aussi une grande famille.
Exactement.
C'est aussi ça qui vous plaît, j'imagine. Jusqu'à 16 ans, vous avez fait vos études, vous avez passé...
Oui, j'ai un peu plus que 16 ans, j'ai passé mon Master 2
sur la... Ah oui, vous êtes très jeune.
Sur l'université de Toulouse.
Oui.
Et puis j'ai décidé par la suite de m'engager dans l'armée comme officier en communication, comme officier sous contrat spécialiste, qui est une branche spéciale dans l'armée.
Et si vous voulez, vous pouvez revenir à dans le civil.
Exactement, oui. C'est un contrat de 5 ans renouvelable.
Oui, ça c'est très bien. Maintenant, beaucoup de jeunes, hein, je crois... font cette expérience.
Oui, bien
expérience.
Sûr, oui, il faut le prendre comme un tremplin également, et c'est vrai que c'est un contrat très attractif.
Donc vous habitiez Toulouse ?
J'habitais à l'époque, oui, Toulouse.
Voilà, et maintenant, j'en retrouve, ça vous fait... Vos parents sont à...
La capitale du Perche, qui me plaît beaucoup.
Oui.
Malgré un temps un peu capricieux de temps en temps.
Mais votre famille est toujours à Toulouse ?
Voilà, c'est ça.
Vous pouvez les retrouver assez souvent quand même ?
Régulièrement, je peux retourner.
C'est-à-dire que vos permissions sont tous les combien ?
Alors justement, ce ne sont pas des vacances, ce sont des permissions. Donc c'est l'autorité qui décide quand on peut prendre nos jours ou non.
Oui, parce que vous avez des jours, enfin des semaines j'imagine, où vous êtes vraiment...
On peut être d'astreinte,
oui.
Être à moins d'une heure du régiment.
C'est une heure. En une heure, vous pouvez être prêt pour...
Exactement. Je souhaite en parler par la suite.
On va en parler. Et vous, caporal-chef Jérémy, comment êtes-vous venu à Nogent-le-Rotrou, à la sécurité civile ?
Alors moi, à la différence du lieutenant, je suis issu, j'ai été engagé en tant que sapeur-sauveteur.
Donc oui.
Avant tout pour intervenir en section d'intervention avec une spécialisation. Et j'ai ensuite, donc je me suis engagé en 2010, justement en tant que sapeur-sauveteur. Et puis j'ai ensuite gravi les échelons dans l'institution, où je suis maintenant caporal-chef, et maintenant à la cellule communication.
Oui.
Voilà, pour seconder le lieutenant.
Oui, alors ça c'est très bien, et j'ai reçu le colonel Rouquayrol quand il est arrivé à Nogent-le-Rotrou. Il expliquait qu'en fait, c'était un métier, si je puis dire, qui permettait d'arriver à une belle situation, si vraiment on se donnait du mal, si on avait du courage, parce que vous étiez dans une grande famille et vous pouviez très bien arriver à l'état-major peut-être. Vous imaginez
tout,
ça.
Tout à fait, en fait, il y a vraiment une évolution. Alors, on parle d'escalier social.
Oui.
Dans l'armée, on peut commencer tout en bas de l'échelle.
C'est ça.
Et puis ensuite, gravir les étapes. Alors, on parle d'escalier, pas d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il y a justement cette volonté d'aller de l'avant et,
oui.
et de progresser.
Oui, ça, j'aime beaucoup la différence.
Ouais.
Alors, d'abord, ça s'appelle l'unité... d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 1. Voilà le titre exact de ce qu'on appelle, nous, à Nogent-le-Rotrou, la sécurité civile. Alors, pouvez-vous nous expliquer déjà ce que ça signifie ?
Oui, tout d'abord, donc avant ça, je voulais parler des formations militaires de la sécurité civile. Nous faisons partie des formations militaires de la sécurité civile. Donc nous sommes un corps de troupes de l'armée de terre,
oui.
appartenant à l'arme du génie. Et nous, notre particularité à la sécurité civile, c'est que nous sommes mises pour emploi au ministère de l'Intérieur. Donc c'est-à-dire que nous avons un pied dans le ministère de l'Intérieur, un pied dans le ministère de la Défense. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on embrasse réellement d'un côté l'armée de terre et de l'autre le monde du secours. Les formations militaires de la sécurité civile, il y en a trois unités en France.
Oui.
Une à Brignoles, dans le sud de la France, une à Corté et une ici, à Nogent-le-Rotrou, qui regroupe pour la totalité des unités environ 1500 personnes. Ici, sur l'unité de Nogent-le-Rotrou, il y a 575 sapeurs-sauveteurs,
oui,
qui font vivre environ 1200 familles. Donc c'est vraiment un poumon, le poumon économique et social de la ville ici,
oui,
à Nogent-le-Rotrou.
D'ailleurs, nous sommes très, très heureux et très fiers à Nogent-le-Rotrou de vous avoir, parce que eh bien déjà c'est bien, parce que vous êtes, on sait que vous êtes jeune, vous avez un idéal, et déjà d'entendre la Marseillaise quand on passe le matin, le vendredi, je trouve que c'est réconfortant pour nous et pour la France.
Pour les couleurs, le vendredi matin, oui, en effet. Il nous arrive de chanter.
Oui, également. Également. Alors, vous ne m'avez pas expliqué, donc
ISC1.
Voilà.
Donc, l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 1. Donc, en fait, c'est deux unités en une.
Oui.
C'est-à-dire que d'un côté, on a une unité d'intervention.
Oui.
C'est notre côté régiment opérationnel, le fait d'avoir des compagnies d'intervention dans le régiment, avec des spécialités qui leur sont propres. Mmh. Et de l'autre côté, l'instruction. C'est-à-dire qu'au régiment, on forme, on est une école. On forme de jeunes personnels ici, à l'unité, pour après rejoindre nos rangs.
Voilà. Alors vous-même, vous avez été déjà formé ici ou dans un autre endroit ?
Alors pour ma part, c'est différent. Moi, je suis passé par l'école de Saint-Cyr-Couët-Quidan.
Oui.
Ici, la formation de base est pour les sapeurs-sauveteurs. Et peut-être que le caporal-chef peut en parler.
Alors tout à fait. Quand on parle d'instruction, c'est un sens forcément très large. On parle d'instruction forcément pour nos personnels.
Oui.
Mais on parle également d'instruction à l'étranger, pour les organismes d'État en France. On forme et on reçoit régulièrement des délégations étrangères qui viennent se former chez nous.
Mmh.
On forme également des pompiers dans certaines spécialités. Donc en fait, il faut comprendre vraiment dans un sens extrêmement large. Et encore aujourd'hui, on est engagé dans des pays africains. Je vais citer la Guinée parce que c'est le pays où on a été le plus présent, 2014 et 2015. Voilà, ce sont des pays où on forme là-bas, on construit petit à petit leur sécurité civile, et d'où le I très important d'instruction.
Et numéro 1 ?
Alors, numéro 1, parce que ça correspond à la zone de défense. Numéro 1, c'est la zone de Paris. Initialement, dans l'histoire de l'unité, elle a été formée à Paris, au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
oui.
Et d'où pourquoi elle a récupéré ce 1. Et si vous regardez bien l'écusson, vous verrez aussi d'autres symboles.
Alors justement, l'écusson, eh bien, j'aimerais que nous en parlions.
Donc sur l'écusson, il y a représenté le symbole de la ville de Paris,
oui,
qui rappelle justement, comme l'a très bien dit le caporal-chef, notre appartenance à l'origine aux sapeurs-pompiers de Paris, à la fameuse brigade des pompiers de Paris, et également l'emblème de la ville de Nogent-le-Rotrou. Et enfin, vous pouvez retrouver sur l'écusson les couleurs rouge et noir, qui sont les couleurs d'appartenance de notre arme, l'arme du génie.
Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors tout à l'heure nous disions il y a Brignoles. Alors Brignoles, est-ce que c'est quand même la spécialité du feu ?
Souvent, justement, on associe Brignoles au feu de forêt. Alors c'était vrai il y a quelques années,
mmh,
et aujourd'hui les unités ont les mêmes spécialités. En fait, ce sont vraiment deux unités sœurs, avec des spécialités qui s'y retrouvent. Bien sûr, nous, aujourd'hui, à Nogent-le-Rotrou, on montre une alerte, et surtout en particulier l'été, pour être prêt à intervenir pour les feux de forêt. Alors, pas forcément dans la région de Nogent-le-Rotrou, mais plus largement dans la région de Bordeaux, par exemple, où le délai d'intervention est proche de celui de l'unité de Brignoles, qui est déjà engagée sur leur secteur.
C'est ça. De toute façon, vous êtes toujours prêt.
Exactement.
Tout à fait.
En parlant toujours prêt, on a une alerte permanente, c'est-à-dire que il y a 120 sapeurs-sauveteurs qui sont prêts à intervenir dans l'heure.
Dans l'heure.
Dans l'heure.
Je le sais parce que moi, je devais recevoir le colonel Rouquayrol, et on m'a téléphoné, il est en Équateur.
Exactement, oui.
Donc, j'ai la chance de vous avoir. Mais c'est vrai qu'il a dû partir vraiment très, très rapidement.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Alors, peut-être que vous pouvez nous expliquer.
Lors du séisme en Équateur, nous étions prêts dans l'heure. Dans l'heure qui suivait, nous étions prêts.
Alors, c'est-à-dire, nous, c'est-à-dire, combien vous étiez ?
Donc, une centaine de sapeurs-sauveteurs qui étaient au régiment et qui attendaient le feu vert pour décoller et partir pour l'Équateur. Alors à l'origine...
Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous écoutiez déjà à la radio pour savoir
Alors en fait, lors des déclenchements comme ça d'intervention
oui.
à l'étranger,
oui, c'est intéressant.
Il y a tout un cheminement, oui. un processus avant le déclenchement du départ, on va dire.
Oui, c'est ça,
voilà.
C'est ce que nous aimerions savoir.
Alors, tout d'abord, dans un premier temps, voilà, comme le disait le lieutenant, on est en alerte permanente, c'est-à-dire qu'on est prêt à partir à tout moment. Notre matériel est déjà en caisse, on n'a plus qu'à le prendre, on va dire. Donc ça, c'est un cheminement logique pour nous. Maintenant, pour de ce qui est de l'intervention dans un pays, c'est déjà une demande du pays.
Oui.
D'abord, la demande du pays membre qui demande justement l'intervention de secours supplémentaires. Nous, on indique ce qu'on peut fournir en personnel, en matériel, parce que le matériel est aussi important que les hommes qu'on envoie.
Oui.
On le voit encore en Équateur, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce côté traitement de l'eau. Si on part sur nos machines, là-bas, on va être utile.
Oui.
Mais là, on nous demande en tant que traitement de l'eau. On ne part pas comme ça dès qu'il y a un
séisme.
Alors, pour
traitement de l'eau, justement, qu'est-ce que vous aviez emporté de particulier ?
Donc pour l'Équateur, il y a 16 tonnes de fret qui sont parties. Tout est colisé, hein, c'est-à-dire que
ah
le
oui.
régiment, tout est prêt à l'envoi, comme disait le caporal-chef, exactement. Donc 16 tonnes de fret et une trentaine de personnels qui sont partis là-bas pour effectuer du traitement de l'eau. Donc il y avait comme matériel une ensacheuse.
C'est quoi ça ?
Alors une ensacheuse, c'est une grosse machine qui permet de mettre... l'eau ou plastique.
Plastique.
Voilà.
Oui.
Également des machines de traitement de l'eau à filtre avec un filtre à charbon et des rampes de distribution qui sont des robinets afin de pouvoir distribuer l'eau potable au profit des populations sinistrées.
Oui.
Et je précise aussi, il y a également un officier expert en risque bâtimentaire qui.
Ça veut dire quoi ?
Alors. C'est un officier qui est chargé d'évaluer les infrastructures qui ont été touchées lors
ah
du
oui.
séisme, voir si elles sont habitables ou non. Et donc, il a été dépêché par la suite en Équateur également pour évaluer les risques potentiels.
Donc, vous étiez combien de milliers, enfin, vous êtes combien était-il à partir ?
30 personnels.
30
oui.
Et un colonel ?
Donc, il y a un chef de détachement qui est le colonel. Ensuite, des officiers
oui.
logistiques, environnement. Et après, des sous-officiers et militaires du rang.
Mais il y a juste un colonel
Le colonel Rouquayrol, oui. Et oui. L'expert en risque bâtimentaire est un lieutenant-colonel.
Et pas de médecin ?
Il y avait également une équipe
médicale.
Une équipe médicale, oui, tout à fait. D'ailleurs, qui rencontre un franc succès là-bas, puis elle ne désemplit pas. Voilà.
Ah oui.
Ils ont beaucoup de travail.
Et les gens qui sont malades, c'est-à-dire, qu'ont-ils exactement alors ?
Alors, en général, ce sont plutôt des fractures ou des atteintes, comment dire ?
Atteintes légères, tout simplement.
Ouais.
En fait, là, on va traiter tout ce qui rentre dans le traitement normal. Il faut savoir que les hôpitaux là-bas sont remplis de malades ayant des pathologies graves.
Oui.
Donc, ces pathologies graves, elles demandent beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants. Et donc du coup, les unités, quand on les projette, ils peuvent servir en fait simplement de remplacement de ces hôpitaux qui sont remplis de patients plus gravement atteints, voire même de les aider dans le traitement de certaines, pour tout ce qui concerne la chirurgie, l'amputation ou autre. Voilà.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Je suis toujours avec le lieutenant Adrien Parmentier et le caporal-chef Jérémy. Nous avions évoqué ce qu'était la sécurité civile à Nogent-le-Rotrou et j'aimerais bien justement que vous évoquiez les catastrophes sur lesquelles vous intervenez.
Donc justement, en parlant de catastrophes, quelque chose d'anecdotique. Au lendemain de notre création, donc en 78, nous sommes intervenus lors de la marée noire de la Moko Cadiz sur les côtes bretonnes qui ont été souillées à cette époque. Et ensuite, plus récemment, nous sommes intervenus pour le séisme en Haïti, avec environ 200 sapeurs sauveteurs qui ont été déployés pour l'occasion. Et j'oubliais une chose, en 85, si ma mémoire est bonne, l'unité a gagné une stature internationale lors du tremblement de terre à Mexico. Également, on peut parler du sauvetage des bléments qu'on a fait en Bolivie en 2011. Au Japon, pour le tsunami, en 2011 également, le caporal-chef était présent.
Ah oui, vous étiez présent lors de...
Tout à fait, oui.
Et vous êtes resté combien de temps ?
C'est seulement 15 jours, en fait. Alors, je dis seulement parce que quand on intervient, on a toujours envie de rester beaucoup plus longtemps que la mission est donnée au départ. Parce qu'en 15 jours, voilà, on a fait beaucoup de choses. Du coup, forcément, c'est toujours particulier de devoir quitter, repartir, revenir en France.
Pourtant, je crois que c'est très dur parce que quelquefois, on est obligé de faire des cellules pour un peu... que les hommes reprennent...
Tout à fait. Alors, en fait, comme un régiment de l'armée de terre, il y a toujours ce qu'on appelle une phase de redescente.
C'est ça.
C'est-à-dire un retour à la vie normale. Et l'unité l'effectue pour quasiment toutes les missions.
Ah, pour toutes les missions.
Voilà, pour toutes les missions. Il y a une prise en compte psychologique et physique des personnes. Hein.
Et comment ça se passe alors, après, juste après
Alors, donc, du coup, il y a la phase d'arrivée.
Oui, c'est ça.
Donc, on arrive à l'aéroport, ensuite on est pris en charge en fonction de la mission sur laquelle on a intervenu. Hein. On peut se rappeler très, très récemment de l'engagement en Guinée avec le risque Ebola où il y a un suivi pendant un mois. Là, dans le cadre de catastrophes plutôt avec un impact psychologique, on est sur du traitement de quelques jours. On essaie de on parle, on a la parole qui est ouverte et on essaie l'unité fait un diagnostic psychologique de ces personnels, on va dire, et d'un suivi de ces personnels. Il faut savoir quand même que les personnels sont préparés et se préparent le mieux possible à la mission, et l'effet de groupe permet au personnel de tenir face à l'horreur aux événements.
Et vous-même, vous avez été content qu'il y ait cette cellule après
Bien sûr, en tant que sapeur-sauveteur, on est toujours content de se sentir épaulé, en fait.
Oui, c'est ça. Une grande famille, je disais.
Tout à fait.
Oui. Alors, je crois aussi que vous êtes venu pour une chose extrêmement importante, c'est qu'à Nogent-le-Rotrou, il va y avoir des journées portes ouvertes. Alors, oui. Ces journées portes ouvertes, dites-nous vraiment comment ça va avoir lieu, quand ça va avoir lieu et ce qui va se passer. Parce que les Nogentais, eh bien, aiment beaucoup la sécurité civile et je suis certaine qu'ils seront très heureux de pouvoir mieux vous connaître, mieux découvrir ce qu'est la sécurité civile.
Donc, le week-end des 4 et 5 juin prochain, nous organisons en effet nos journées portes ouvertes.
Oui.
Quelques mots, l'ouverture des portes le samedi 4 juin à 10h et une clôture le dimanche 5 juin à 19h30.
Alors, comment ça va se passer ?
Donc, tout au long du week-end, vous pourrez assister...
Alors d'abord, vous êtes tous là, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tous les sapeurs de l'unité, les 575... du sapeur-sauveteur au colonel seront présents et vous accueilleront avec grand plaisir.
Alors il faut se présenter où pour les Nogentais ? C'est rue de Sully ?
C'est ça, la caserne Sully au portail Saint-Jean.
Oui.
Voilà, je ne pense pas que vous pourrez manquer l'événement. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait rassemblé plus de 10 000 personnes sur le week-end entier.
Alors pour les voitures ?
Il faudra suivre la file de véhicules.
Alors en fait, il y aura un fléchage à partir du centre-ville de Margon et de Nogent-le-Rotrou. Donc il y a juste à suivre le placardage, l'indication. J'aimerais aussi préciser que sur cette journée porte ouverte, elle a une saveur particulière parce que cette année, on a intégré ce qu'on appelle l'ESOL.
Ce qu'on appelle
l'ESOL, alors c'est l'établissement de soutien opérationnel logistique. Donc il y a pour...
Redites ça lentement.
Donc l'établissement de soutien opérationnel et logistique.
Oui.
Donc c'est un établissement qui a pour vocation, un petit peu à la manière américaine, de garder du matériel en réserve, hein, ce qu'on appelle vulgairement les réserves nationales.
Oui.
En fait, c'est du matériel qui est conservé et qui est prêt à intervenir en cas de catastrophe en France. L'Isole Nord, qui est située près de Paris, est aujourd'hui intégrée à l'USC1 et a toute sa place aujourd'hui dans nos journées portes ouvertes, parce qu'ils vont venir avec du matériel, nous présenter pour la première fois du matériel au public et l'occasion de voir les unités de pompage haute capacité qui étaient engagées en particulier sur l'exercice de Sequana, mais qui peuvent être engagées partout en France lorsqu'il y a de grosses inondations.
Récemment également, c'était au mois de février ou mars, il y a eu ce cargo, le Modern Express, qui a failli s'échouer sur les côtes landaises. L'unité et les ESOL sont intervenus en amont s'il y avait une catastrophe.
Donc là, on pourra voir ça à Nogent-le-Rotrou.
Oui, tout à fait, ouais. Et donc c'est l'occasion de venir rencontrer nos sapeurs-sauveteurs, de venir découvrir toutes les facettes de notre métier, parce qu'il y en a.
Alors, il y a
tout un panel. Donc,
expliquez-nous justement le panel.
Donc, il y a du sauvetage d'éblaiement.
Alors ça veut dire qu'il y aura quoi alors pour le déblaiement
Alors,
je pense par exemple quand il y a eu un tremblement de terre.
Oui. Mmh. Alors en fait, les journées portes ouvertes plus largement vont s'organiser autour de démonstrations de nos savoir-faire. Donc, ils vont être dans le domaine du feu de forêt, où on aura la présence également de moyens aériens qui sont annoncés.
Un feu de forêt, on verra quoi?
Alors, en fait, on a toujours un moyen de faire un feu fictif sur le terrain de rugby. Donc,
ouais,
on met le feu à des...
Un feu fictif.
Ouais, voilà, un réel feu.
Alors, c'est un vrai feu.
Oui, c'est un vrai feu.
Tout à fait,
oui.
Voilà. Oui. Donc, qui simule un feu de forêt. Où on va voir intervenir des véhicules spécialisés dans le feu
de
forêt.
C'est un feu qui fait une grande largeur.
Alors en fait, ce sont des palettes dans lesquelles on met le feu.
D'accord.
Ça fait à peu près 3-4 mètres de haut,
oui,
sur 10 mètres de large.
Ah, quand même.
Et donc du coup, on met le feu. Ensuite, on fait intervenir les camions citernes feu de forêt, comme en réel, c'est-à-dire lors d'une intervention en feu réel. Et puis, on fait intervenir les moyens aériens, comme dans la réalité, c'est-à-dire c'est surtout un avion,
un avion.
Qui est annoncé, ce qu'on appelle un dash, c'est-à-dire un avion bombardier d'eau, qui va venir larguer l'eau sur le feu pour...
Et alors, qui est-ce qui pilotera?
Alors, ce sont des pilotes de la sécurité civile qui... Alors,
les moyens... De chez vous?
Non, ce sont bien des personnels spécialisés qui pilotent ces avions.
Ah oui.
Alors nous avons également aussi, nous ferons également la démonstration de ce que nous, en acronyme, on appelle le DIH, c'est-à-dire le détachement d'intervention héliportée. C'est une capacité nouvelle à nos gens le retrouvent, qui permet en fait de projeter au plus près, dans des zones inaccessibles, des personnels pour lutter contre le feu. Donc
ah oui.
C'est surtout pour faire... c'est soit du traitement de lisière lorsque le feu a été éteint, donc pour venir traiter les limites de feu, pour éviter que le feu reprenne ou se propage, et puis également de venir faire des pare-feux naturels en coupant la végétation.
Oui, ça c'est très intéressant parce que donc on se rendra compte exactement de la manière dont vous vous y prenez pour éteindre un feu.
Tout à fait, et donc du coup on aura la présence de deux super pumas qui sont annoncés aux journées portes ouvertes qui permettront de complètement visualiser l'ensemble des manœuvres qui sont reproduites lors des feux de forêt.
Et ça aura lieu à 10h le matin?
Alors ils sont prévus dans deux parties de la journée. Je sais pas si...
Non, on n'a pas les horaires sous les yeux.
Mais de toute façon, quand on vient, c'est pour la journée.
Exactement, oui. Oui,
c'est pour la journée, donc oui. Il faut venir à 10h. Et alors, il y a une restauration pour
oui,
le...
Oui, il y a une restauration sur place, bien entendu. Mais après, il y a également, ça plaît beaucoup aux enfants, les maîtres chiens, donc une équipe cynotechnique présente.
Alors, les maîtres chiens, c'est pour découvrir des armes, pour découvrir...
C'est surtout pour de la découverte de personnes ensevelies sous les décombres.
Ah oui, parce que maintenant aussi, il y a des chiens qui découvrent les armes cachées. Je pense en particulier quand il y a des attentats. Maintenant, les chiens sont...
Tout à fait, mais nos chiens sont vraiment des chiens de recherche spécialisés dans ce qu'on appelle le sauvetage bilan, c'est-à-dire l'intervention après un séisme ou une explosion, tout simplement.
Gens.
Voilà, pour retrouver
Et là, à Nogent, vous avez des chiens?
Oui, tout à fait. On a un chenil avec
neuf chiens
qui sont pleinement opérationnels et qui, à l'instar de nous, sont capables de se projeter en une heure à l'étranger au besoin.
Et même élitreuillés, d'ailleurs.
Ah oui, élitreuillés. Et alors, il y a des hommes qui sont capables de s'en occuper. Je veux dire que ce n'est pas n'importe qui peut s'occuper des chiens. Est-ce qu'ils ont été... Les hommes sont formés également pour...
Alors, tout à fait. Ce sont avant tout des sapeurs-sauveteurs.
Vous êtes sapeurs-sauveteurs.
Tout à fait. En fait, on est tous sapeurs-sauveteurs.
Savez aussi.
Voilà, on sait d'abord, on apprend à sauver des vies. Et puis ensuite, on se spécialise dans différents domaines qui correspondent à des compétences.
Oui.
Tout à l'heure, quand nous parlions de la formation, nous sommes une école de formation aussi, l'instruction, c'est ce qui fait partie du tronc commun, c'est-à-dire que chaque sapeur-sauveteur doit avoir des connaissances théoriques et pratiques dans le sauvetage d'éblément, dans la décontamination de masse, dans le secourisme, les inondations, la lutte contre le feu de forêt et les tempêtes, cyclones, ce qui correspond à du tronçonnage. Et après ce tronc commun viennent les spécialités, donc comme maître chien, cynotechnie.
Vous avez combien de maîtres chiens?
Alors ça, c'est une question piège. Je ne saurais y répondre.
Bon, ce n'est pas grave. On viendra voir justement lors des journées portes ouvertes ceux qui feront ce travail.
Et sans oublier les exposants d'ailleurs.
Ah oui, et alors il y aura des
stands.
Exposants.
Oui, tout à fait. On a des ventes d'articles traditionnels, des confiseurs, crépiers, surplus militaires, revues spécialisées. Miniatures également.
Et est-ce qu'on aura des chants militaires aussi?
Alors ça, c'est le vendredi matin, lors de nos couleurs, tous les vendredis matin,
oui.
Vous l'aurez, mais sans doute pas pour les journées portes ouvertes.
D'accord. Eh bien, je crois que nous aurons vraiment très envie d'aller à ces journées portes ouvertes de la sécurité civile. Un grand merci à vous deux. Et je vous rappelle,
merci
chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci.